Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Twitch.
Bonjour Twitch.
Bonjour, je suis Manon Portanier. On est en live sur Twitch, comme je l'ai déjà dit au moins 4 fois. Je suis avec... Vous le connaissez peut-être, mais peut-être pas physiquement parce qu'il se cache pas mal depuis ces dernières années. Nous sommes avec Toubib or not Toubib, ou c'est Toubib or not Toubib.
Toubib or not Toubib, mais après on m'appelle en pseudonyme, on va dire Toubib.
Ouais, bah
Toubib. Ça sera plus simple.
Ouais.
Batman, sinon, mais bon, c'est pas.
Ouais, mais.
Ça, c'est mon autre identité
mais non,
secrète.
Mais surtout si tu dis Batman, il faut un minimum de trucs, tu vois, genre un costume,
faire
de l'argent.
Voix, hein. Non, c'est une blague.
Me chauffe pas, il faut que tu fasses la grosse voix. Bonjour à tous, bonjour Twitch. Donc nous sommes en live avec Nicolas qui est aussi pédiatre urgentiste et qui va nous parler aujourd'hui d'un large sujet, les fake mails. Je sais que vous avez envie d'en entendre parler, je sais que vous brûlez derrière vos claviers, je sais que vous avez envie de vous déchaîner sur le sujet. Ça tombe bien parce qu'on va parler de ça. Nous sommes dans l'apéro des darons que vous connaissez depuis maintenant quelques émissions. On brise les tabous autour de la parentalité. Est-ce qu'il y a plein de tabous à briser? Pas forcément, mais dans tous les cas, on aime bien parler de trucs qui puent. Mais pas que, en gros, concrètement, chez Mademoiselle et dans l'apéro des darons, on parle postpartum, on parle couche, on parle low cheese. Si vous avez écouté nos précédentes émissions, on dit low cheese. Et aujourd'hui, on parle médecine. Et qui mieux que ça quand même pour parler médecine qu'un médecin? Parce que je vais pas parler de médecine toute seule, ce serait ridicule en pensant que j'ai eu 2 en maths à mon bac. Est-ce qu'on doit vraiment rajouter ce détail? Je suis pas sûre.
Je sais pas, ça sert à quelque chose les maths?
Ah ben c'est toi qui me le dis.
Je sais pas.
Non, ça passe à
part
médecine.
À part le produit en croix, bon, c'est pas...
Que je ne sais toujours pas faire.
Voilà, là, il y a un problème.
Oui, bon, écoute, je compte encore sur mes doigts. Est-ce qu'on peut arrêter de se faire juger dans cette émission?
Mais Dieu a inventé la calculatrice, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, exactement.
Après, je suis pas sûr que ce soit Dieu qui l'a inventé, mais c'est...
Bah, voilà. Est-ce que... on va vraiment avoir une débat sur la théologie?
Non, pas tout de suite.
Pas tout
on gardera ça pour après.
En plus, on a dit qu'on parlait de science ce soir. Donc, pour l'instant, bonsoir Nicolas, bienvenue.
Bonsoir.
Je suis très contente de te voir ici. Pour celles et ceux qui nous suivent, vous avez déjà dû le voir dans des vidéos postées sur notre compte Instagram et aussi dans les articles sur Mademoiselle et plus particulièrement la rubrique Daronne où nous avons parlé de la fièvre chez l'enfant, du... De quoi on avait parlé? De la noyade sèche. Ah, vague sujet. Ouais.
Tout un programme, ouais.
Ah, tout un programme. Et on va continuer, du coup, à parler aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec la médecine et les enfants. Et sans oublier que ce cher Nicolas, avec nous aujourd'hui, a publié un livre absolument indispensable pour tous ceux qui ont des enfants ou qui envisagent de se reproduire. Je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Qui s'appelle Urgence or Not Urgence. En gros, un manuel de survie en milieu pédiatrique. Alors dit comme ça peut faire flipper, genre comment on survit en milieu pédiatrique? Ben en fait c'est, lisez-le, il y a plein de conseils très utiles sur les douleurs testiculaires, parce que ça peut arriver au meilleur d'entre nous, sur la vulvite, qu'est-ce que je vois au pif, le traumatisme crânien, à quel moment on s'occupe de Mathéo qui s'est cassé la margoulette en descendant les marches, est-ce qu'on l'envoie aux urgences immédiatement ou est-ce qu'on attend un peu? Bref, tout ça est expliqué et détaillé dans le fabuleux livre Urgence ou Not Urgence que vous devez avoir, parce que si vous ne l'avez pas, vous avez raté votre vie.
Ouais, c'est la partie de télé-shopping, c'est très bien. Magnifique.
T'as vu ?
C'est super fait.
Eh,
vraiment, on s'y croirait.
Franchement, je suis assez contente. Donc pour aujourd'hui, on va parler des fake meds, ces fameuses médecines dites alternatives, et dont les dérives de ces pratiques peuvent, en plus d'être malheureusement souvent inutile, s'avérait être surtout dangereuse pour les enfants, selon les médecines. Donc aujourd'hui, on doit en parler, parce que c'est vrai que quand on devient parent, on est un peu comme une poule face à un couteau, on se demande où est le mode d'emploi, on ne comprend pas comment ça marche, ça crie, ça devient rouge, ça hurle, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, et on peut avoir tendance à écouter soit Mamie Simone, soit la belle-mère, soit plein de gens, la mamie dans le bus qui me dit que... Bref, on va reparler de ça plus tard. On a tendance à écouter beaucoup de conseils, on ne sait pas forcément comment s'en dépatouiller et on finit par penser que notre enfant a une maladie incurable parce qu'il a des rougeurs sur la peau alors qu'en fait c'était juste un bouton de moustique. Donc on va dépatouiller un peu tout ça pour comprendre que face aux pleurs du nourrisson, des douleurs, des souffrances et plein d'autres choses aussi, pourquoi on se tourne en tant que parent malheureusement vers les fake mails. Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Pourquoi on le fait? Voilà, on va papoter de tout ça. N'hésitez pas, bien sûr, à nous parler sur le chat. Et on va voir s'il y a des questions. Est-ce que vous me voyez ?
Aha. Il ne faut pas d'erreur technique, rappelons ce soir.
Non, il ne faut pas d'erreur technique parce que sinon, moi, après, je me mets à pleurer et tout. Donc non, c'est pas la bonne solution. Je vais juste faire ça et on nous voit. C'est bon, parfait. N'hésitez pas à me dire si vous nous voyez dans le chat, s'il vous plaît, que je ne parle pas dans le vide et que Nicolas ne parle pas dans le vide non plus, parce qu'on va dire des trucs hyper intéressants et ça serait très très con que vous passiez à côté. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire qu'on a un glow fabuleux, ça marche aussi. Alors vous le savez, bonjour Nicolas, que dans l'apéro des darons, nous avons une rubrique qui s'appelle le dico des darons, où chaque mois on analyse un mot en rapport, je vais tousser... un mot en rapport avec la parentalité.
Si je suis malade demain, on saura pourquoi, hein, finalement.
Ah putain, et en plus, c'est à cause de moi que tu vas contaminer plein de gens et tout. Oh, ouais. Putain. Ouais. Non, alors, je suis malade, mais je ne suis pas malade. J'ai juste un rhume des foins.
C'est ce qu'on dit.
Mais voilà. Je sais que je suis pas malade.
Je crois que ça commençait comme ça dans 28 jours plus tard ou un truc de genre. Donc, bon.
C'est pour ça que ma poète décolle.
Ça finit avec Londres qui est vide, ouais, c'est à Paris.
N'empêche que la scène d'intro dans 28 jours plus tard. Ok, on continue. Donc vous savez, on aime bien commencer chaque émission avec une définition d'un mot en lien avec la parentalité. Et du coup, ce mois-ci, pour être bien dans le thème des fake Meg, ce mois-ci, le mot c'est syndrome de Kiss. Ah, on me voit. Oh, merci Mathis, tu es bien gentil de dire n'importe quoi. Donc oui, le syndrome de Kiss, ça fait pas un mot, ça fait trois mots. Vous allez faire quoi, hein? C'est comme ça. Si vous nous regardez, vous savez qu'on aime bien choisir des mots qui font un peu peur, qui font un peu flipper, pour montrer que la maternité et la parentalité, c'est parfois des mots barbares qu'on découvre qu'une seule fois qu'on a le nez dedans. Et pourtant, parfois, il y a une réalité beaucoup plus simple qui mérite d'être davantage connue et expliquée. Aujourd'hui, on va parler de ça, du coup, du syndrome de Kiss. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un groupe de rock ? Est-ce que c'est une maladie qui se soigne avec un bisou magique ?
Justement, j'allais dire, c'est pas forcément, de prime abord, quelque chose qui fait peur, finalement.
Non, parce que tu dis syndrome de Kiss, c'est déjà, un syndrome du bisou, quoi.
La dernière fois, c'était Loki, Loshi, Loshies, on ne savait pas trop. Loshies. Voilà, bon, moi, je suis team Loki, mais c'est parce que je regarde beaucoup de Marvel, c'est pour ça.
Oui, oh, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui,
mais c'est pas la même chose, okay. Attention.
Non, c'est pas la même...
Le syndrome de Kiss, ça n'a rien à voir avec le fameux groupe de rock. Hein. C'est pas,
non, c'est pas ça. Est-ce que du coup, on se fait des peintures
sur
le visage?
Non, ça aurait peut-être été plus sympa, d'ailleurs. Le syndrome de Kiss, pour résumer, en fait, c'est une fake med. Et c'est peut-être une des fake med, à mon sens, les plus abouties, en fait, autour de la périnatalité. Qui est vraiment la plus réfléchie dans son mode d'arriver à finalement inventer quelque chose qui n'existe pas.
Ah, parce que spoiler, ça n'existe pas.
Ah oui, non, ça n'existe absolument pas. Le syndrome de Kiss, en fait, va postuler il va prendre un syndrome, donc c'est-à-dire vraiment plusieurs symptômes, et alors n'importe quoi. C'est tous les symptômes, finalement, qu'il va y avoir dans la petite enfance.
Mais ça concerne que les nourrissons,
chez les nourrissons.
D'accord. Ouais,
voilà. Alors, n'importe quoi, pleurs, coliques, reflux, la position de l'enfant, tout.
S'il arrive à bouger sa tête, pas bouger sa tête.
Torticolis, plagiocéphalie, tout peut être intégré
dans le syndrome de
Kiss quand on y regarde bien. Et c'est merveilleux, c'est formidable, parce que le syndrome de Kiss, on explique finalement que ce syndrome va avoir une origine soi-disant anatomique, que ça serait une subluxation, donc une luxation, vraiment une minime luxation de la première vertèbre sur la deuxième vertèbre, donc de C0 sur C1, et qu'il faudrait des manipulations cervicales, donc, pour arriver à les replacer dans l'axe, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant aille mieux. Surtout que après il y a tout, c'est beaucoup plus, un peu plus complexe, hein, parce que il y a vraiment tout aurait une explication logique dans ce syndrome, en disant que comme les vertèbres sont un peu dépassées, ça va toucher le nerf vague qui passe à côté, donc nerf 10 dans les paires crâniennes, que ça va avoir des conséquences parce que le nerf 10 va passer, va cheminer à peu près dans la moitié du corps, etc. Et va contrôler certaines des fonctions végétatives dans le corps humain, et ça expliquerait aussi. Alors c'est la totale foutaise, c'est du bullshit total, soyons clairs.
Mais du coup, oui, surtout si c'est une histoire de nerfs dans les vertèbres, machin, comment ça pourrait expliquer des coliques ou des trucs comme ça, enfin, c'est...
Bah, il postule que justement, ça va être ce chamboulement dans le nerf qui va aller irriguer finalement le système nerveux végétatif ou autonome, comme on dit, et qui va, si vous voulez, chambouler au niveau intestinal, au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, tout. Mais en fait, on peut tout faire dire à ça. Mmh. On peut tout faire dire et surtout, ça n'a aucune existence anatomique. Et ça, c'est la première chose à dire. Aucune existence anatomique parce que finalement, personne dans ce fameux syndrome n'a jamais mis ça en évidence. Hein. Et pour faire ce genre d'évidence, il faudrait faire des études avec des enfants qu'on passerait dans des IRM pour voir finalement comment se font les rapports vertébraux et surtout avec le nerf, parce que c'est des trucs très fins. Sauf que personne n'est assez secoué dans le monde médical pour aller faire un truc pareil.
Ça n'a jamais été fait.
C'est juste que pour les enfants pour lesquels ça a été fait, quand il y a des enfants qui ont certains problèmes autres à côté, hein, que ça soit des recherches de tumeurs, etc., qui se trouvent finalement au même endroit au niveau fosse postérieure, on peut observer finalement les rapports et tout ça. Il y a aussi à tout ce qui est dans les séries d'autopsie, etc., qui peuvent essayer de voir les rapports entre les nerfs, entre les structures cervicales osseuses et les structures osseuses et les structures musculaires, pardon. Mais il y a pas, ça n'a jamais été montré simplement parce que il n'y a aucune existence à ça. Il n'y a aucune existence. Et un des moyens qui est mis par les gens qui pratiqueraient, qui pratiquent ce syndrome de Kiss et cette guérison, finalement, c'est de faire une radio cervicale pour dire, ben voilà, regardez, il y a ça. Et puis, ils font voir comme par magie sur les gens. Sauf qu'en fait, encore une fois, c'est parce que les gens ne savent pas. C'est tout total bullshit.
Ils ne savent pas regarder. Donc, on leur dit, regardez,
non,
c'est ça.
Non, c'est pire que ça. On n'identifie pas une luxation cervicale sur une radiographie standard. N'importe quel radiologue pédiatrique vous confirmera que c'est strictement impossible. Si vous voulez faire ce genre de choses, moi, quand moi j'ai un enfant finalement qui a pour un traumatisme notamment, hein, qui a une suspicion de luxation vertébrale, la radio ne suffit pas. Il faut faire un scanner cervical. Sauf que le scanner, c'est un examen irradiant. Et donc, aucun radio-anatomiste, aucun radiologue pédiatrique ne sera assez fou pour aller irradier des nourrissons juste sur l'intuition que, oh, il y aurait une subluxation de ces 0 sur C1 qui expliquerait tout dans le monde. C'est faux. C'est totalement faux. Et c'est pour ça aussi, finalement, que personne dans le monde scientifique ne valide cette théorie. C'est important de le rappeler, ça, en fait. Parce que le syndrome de Kiss, et ceux qui se réclament du syndrome de Kiss pour pouvoir le soigner, peu importe qui ils sont en marge du système médical, tout simplement parce que toutes les autorités scientifiques compétentes, donc pédiatriques, la Société française de pédiatrie, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'Autorité de la santé, l'Ordre des kinésithérapeutes de France, tous sont unanimes. Ça n'existe pas, c'est de la pure foutaise et c'est dangereux.
Et pourquoi c'est autant à la mode? Pourquoi on en entend autant parler et pourquoi on entend des syndromes de Kiss à tout va depuis ces dernières années?
Ah, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment le rock.
Mais oui.
Ça, non, je suis pas
mais
sûr.
Mais c'est bien d'aimer le rock.
Non, mais je suis même pas sûr en plus que c'est pas sûr que ce soit. Ça, c'est nos générations, mais bon, ouais, bref. Non. On va y revenir là-dessus.
Oui, on est des vieilles personnes. On en discutait tout à l'heure. On n'a qu'un an d'écart. Le croyez-vous?
C'est
beau.
Ouais. C'est terrible. Non, je pense que si il y a de plus en plus de modes là-dessus, et pas que sur le syndrome de Kiss, soyons clairs, c'est qu'il y a une sorte d'appel d'air, en fait, pour les fake med. Il y a une sorte, c'est une ère absolument prodigieuse pour l'essor des fake med, qui est la conjonction entre les réseaux sociaux qui donnent la parole à tous, et notamment aux fameux témoignages. Mmh. Et il faut rappeler un truc, le témoignage, c'est quelque chose d'important, mais le témoignage en médecine et en science, ça a une valeur zéro. Soyons clairs, il y a beaucoup trop de biais, et vous ne savez jamais si le témoignage qui vous est rapporté est vrai factuellement. C'est-à-dire que même parfois des personnes qui sont sincères, en fait, sont biaisées dans leur perception, dans ce qui s'est passé. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'on fait...
T'as un exemple concret à donner pour qu'on comprenne?
Je pense qu'un exemple concret, finalement, ça va être une personne qui va dire, voilà, on n'a rien fait pour moi aux urgences pédiatriques.
Mmh. Il souffre
énormément, etc. Sauf que si vous regardez, finalement, ça c'est lui qui vous le dit, puis vous regardez, vous reprenez le courrier de sortie, il a eu tel et tel examen, il a eu un avis détaillé, Et finalement, en fait, c'est juste parce que cette personne n'a pas forcément eu la réponse qu'elle attendait, c'est-à-dire un traitement, peut-être même un traitement miracle, qui va répondre à ses attentes.
Autre et chose coup, que du Doliprane ou que... Ouais.
Il va y avoir un décalage entre les deux, un décalage entre le vécu. Ça ne veut pas dire que cette personne a menti, ça veut dire qu'elle, elle l'a vécu comme ça. Et c'est quand même très difficile à faire entendre, et surtout sur la parentalité. Parce que vous avez de multiples exemples sur Internet, finalement, où on voit passer ces posts de témoignages de maman. Qui décrivent, et même encore pire que ça, hein, sur, je parle vraiment sur le post de Facebook qui va devenir viral, et où vous allez avoir la maman qui décrit tous les symptômes de son enfant, limite appel à l'aide, appel tout ça, elle a fait tout, etc. Mais en fait, on m'a déjà demandé, on m'a déjà tagué hein, sur les réseaux, pour aider par exemple telle ou telle maman. Dans l'absolu, je ne suis pas contre, mais en fait, je n'ai pas le dossier médical de cet enfant, je ne sais pas ce qu'il a déjà eu,
ses antécédents,
je n'ai jamais vu cet enfant, je ne peux pas dire. Et en fait, tous ceux qui s'en offusent sur le témoignage du parent, il faut toujours avoir les deux perspectives, et il faut avoir le dossier, et il faut avoir tous les éléments. Vous ne pouvez pas faire ce jeu sur... En fait, c'est pour ça que le FactMed marche, parce qu'il joue sur l'émotionnel, il joue sur un vide aussi, parce que le vide de l'écoute du patient, le vide de fait que de plus en plus on manque de temps, nous praticiens, pour voir les patients, qui se traduit par la crise générale de l'hôpital et du libéral en ce moment, et aussi parce qu'on est... l'homme est un animal de croyance. Je pense, enfin j'ai toujours pensé et je continuerai toujours à le penser, et que il y a quelque chose dans les fake med qui est autour du coup de fait de croire, et qui est autour d'une sorte de pensée magique, parce que c'est arrivé à nous, la fake med veut tenter de nous donner une explication simpliste à des choses complexes. Ça me rappelle un peu l'antivaxisme privé.
C'est un peu ça,
c'est exactement
ouais.
le même procédé. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont tomber dans ce piège, parce que c'est un piège à la fin. Et ce qui est regrettable, c'est que c'est les parents et les enfants qui vont en souffrir à la fin. Et ça, je trouve ça très regrettable.
Et pour revenir, revenir vraiment sur le syndrome de Kiss en lui-même... Les symptômes qui font consulter les parents, tu le disais, c'est voilà, les coliques, ça peut être le cou, ça peut être des douleurs, des pleurs qu'on ne comprend pas forcément. Et vers qui les parents se tournent comme praticiens dans ces cas-là? Qui sont les praticiens qui disent « Ah, ça, c'est un syndrome de Kiss ?» Est-ce qu'il y en a qui existent?
Il y a une multiplicité de personnes qui vont pratiquer ce soin autour du syndrome de Kiss. Il y a, je pense, plus majoritairement des ostéopathes, mais il y a aussi des médecins, parfois des chiropracteurs, et c'est un peu une sorte de nébuleuse. Alors après, il est souvent, je pense, mieux pour ceux qui pratiquent, qui veulent faire croire de pratiquer ça, d'avoir un médecin dans leur groupement où ils vont se trouver. Parce que normalement, il faut savoir que manipuler la colonne cervicale d'un nourrisson avant l'âge de 6 mois, c'est strictement interdit par la loi. Sauf si vous avez une indication médicale ratifiée par un médecin. D'où le fait que si vous avez un médecin dans la structure qui croit à ça alors qu'il n'y a pas de données scientifiques, rappelons-le, bah dans ce cas-là, en fait, c'est mieux. C'est plus facile.
Oui, ça donne un peu plus de crédibilité.
Crédibilité, et en plus, ça donne l'autorisation. N'oublions pas, il n'aurait pas sinon. Si, imaginons que l'ostéopathe d'à côté, c'est lui qui va aller manipuler l'enfant, ben, en fait, ça donne la permission. Et ça, c'est gravissime. En vrai, c'est gravissime. Et je pense que... je ne sais pas pourquoi on attend, en fait, à chaque fois, on attend le drame de la manipulation cervicale pour avoir...
ça existe, ça, le drame de la manipulation cervicale?
Le drame de la manipulation cervicale, en fait, il existe de deux façons. Il peut exister d'abord par... il ne faut pas mourir maintenant.
Ouais, mais
on a encore pas mal de
on
temps.
On a encore trois quarts d'heure de live, je suis déjà en train de mourir.
Donc, le drame, il est en deux temps. Le premier temps, il est pour le fait que l'enfant... dans une mauvaise manipulation cervicale, va pouvoir avoir un retentissement. Les études ont montré...
Tu me donnes l'explication.
Voilà. Non, c'est pour ça. Les études ont... Il n'y a pas beaucoup d'études sur le Kiss, hein, parce que, encore une fois, c'est vraiment... ça fait pouffer le monde médical scientifique. Mais les deux, trois études qui s'y sont intéressées ont prouvé, en gros, que Le principal, la principale chose, c'est que ça donne des malaises graves de l'enfant, parce que ça provoque des apnées du fait de la manipulation d'un coup, et un malaise grave de l'enfant avec perte de connaissance. Il peut y aller aussi de ce qu'on appelle un phénomène de dissection cervicale, parce que vous avez les artères en fait, qui passent derrière au niveau cervical, les fameuses artères cervicales qui vont aller nourrir au niveau de l'encéphale. Et si vous faites des mouvements trop brusques, vous pouvez faire un mouvement de cisaillement et créer des lésions en fait, sur les parois de ces artères, et donc des retentissements vasculaires important, etc.
C'est vraiment dangereux.
Ça, c'est des trucs dangereux. Heureusement, c'est hyper rare, soyons clairs. Okay. Mais les malaises sont beaucoup moins rares, déjà. Il y en avait eu beaucoup dans les deux études, il y en a eu beaucoup d'enfants qui faisaient ce type de malaise. Et après, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus inquiétante et pourtant beaucoup moins ressentie par les parents, c'est le retard diagnostique, c'est le retard de prise en charge, c'est ce qu'on appelle la perte de chance. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont aller consulter des praticiens, qui vont aller consulter des personnes, ou bien des personnes qui se disent praticiens, et qui vont leur donner des diagnostics, alors qu'en en fait, il faudrait voir des gens qui sont spécialistes, pédiatres, kinés, pour prendre en charge comme il faut.
Un torticolis de l'enfant, à côté de quelque chose, ouais.
Un torticolis de l'enfant ne se prend en charge que par un kiné pédiatrique ou avec une coordination avec le pédiatre et le médecin traitant, mais pas par personne d'autre, parce qu'il peut cacher aussi des choses, ce torticolis. Encore une fois, on revient aux deux études que j'avais citées. J'avais des amis dans mon article sur Facebook, mais sur une des séries, il y avait deux enfants qui, au lieu d'avoir un torticolis, avaient en fait une tumeur cérébrale de la fosse postérieure qui créait ce torticolis. Ça engendre
des retards de diagnostic
qui peuvent être très, très graves. On parle de tumeurs, là, de tumeurs du cerveau qui doivent être pris en charge le plus rapidement possible. On parle d'enfants pour lesquels, en fait, finalement, on va aussi vous proposer des soins et des soins et des soins. Parce que, attention, hein, dans cette espèce de nébuleuse où on fait croire un diagnostic, le principe aussi, c'est de faire revenir le client. Donc, en fait, il faut faire des contrôles parce que ça peut se rebloquer, se débloquer. On est dans un fantasme total, mais... on est dans l'entretien parce que
il faut quand même. C'est ça. J'allais demander quel est le but aussi de ces personnes, de ces praticiens.
Alors, mais c'est une bonne question.
C'est quoi
hein.
leur but en fait ?
Mais moi, c'est une bonne question parce que en fait, quand on parle du syndrome de Kiss, mais on peut en parler de plusieurs. Hein, il y en a plein. Il y a une multitude de choses comme ça. Et en fait, moi, je me demande à un moment si ces gens en fait finissent par ils font ça juste parce que en effet, ça a une manne. Pécuniaires qui vont pouvoir reprendre, ça a aussi un certain prestige parce que les parents après deviennent totalement fondus, totalement fanatiques de ces personnes-là souvent.
Ils les recommandent,
ils sont même zélateurs. C'est moi-même, je l'ai vu la première fois où j'avais fait un article dessus. Mais je me demande si finalement à un moment, un peu comme les gourous de secte, est-ce qu'ils finissent par croire leur propre invention.
Oui.
Et ça, c'est un truc que je trouve assez, assez phénoménal. Mais encore une fois, et on y revient, nous, on a vécu tout ça, là, la période de Covid, avec l'antivaxisme, avec tout ce qui a tourné autour des masques, etc. On a des gens qui finissent par être en dehors de la réalité, d'avoir une scission de la réalité. Je ne sais pas ce qu'on peut y faire, en vrai. En temps ordinaire, chez les adultes, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, dans la mesure où ils sont informés une seule fois au moins de ce qui... Voilà, vous allez voir...
Ils peuvent être informés.
Vous allez voir un homéopathe, un ostéopathe, un chaman, j'en sais rien. Vous êtes grand, majeur, vacciné, on vous a... Ou pas vacciné, mon Dieu, je n'ai pas dit. Non, pardon, j'ai rien dit. Vous allez voir ces gens-là, vous payez de votre poche, je n'en ai en fait... pas grand chose à faire, c'est vous faites ce que vous voulez. Par contre, la particularité des fake meds appliqués à la périnatalité, c'est que vous l'imposez à un enfant qui lui n'a pas le choix, qui n'a pas la possibilité d'avoir le choix et qui va subir. Alors que nous, en tant que médecins en pédiatrie, nous sommes les garants de la santé de l'enfant dès lors que on nous en charge. Moi, quand l'enfant rentre dans les urgences, c'est moi qui ai l'autorité, en fait. C'est un truc que peu de gens savent, mais en fait, si jamais le parent, pour une raison X ou Y, prend
la
décision de vouloir remporter un enfant que je considère comme grave et que ça met en jeu, en fait, sa santé, je vais le retenir par tous les moyens. Et je peux le déchoir, des droits parentaux en appelant le procureur de la République le temps de soigner l'enfant, par exemple. Parce que il faut bien faire ça. C'est tout simplement.
Dans l'intérêt de l'enfant.
Mais oui, mais pour, on va mettre un cadre très simple que tout le monde va comprendre, la maltraitance. Mm-mm. Imaginez, on ne va pas dire, imaginez le parent maltraitant qui vient parce que son enfant a un fémur cassé, on ne va pas lui dire, repartez chez vous parce que oui, c'est vrai, vous ne voulez pas rester, je comprends. Ben non, en fait, ça ne se fait pas. Je ne dis pas que tous les autres sont maltraitants, mais il y a des personnes qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire du mal à leur enfant ou qu'ils prennent la mauvaise décision. Et c'est à nous, en fait, de garantir que l'enfant va rester en vie, etc. Et en fait, c'est dans cette mesure-là, dans ce grand cadre-là, que moi, le fait de voir des enfants passer entre les mains, notamment de personnes qui n'ont pas de connaissances médicales ou peu, ou des gens qui appliquent des fake med, des choses qui sont fausses scientifiquement et qui n'ont pas été recommandées par la communauté scientifique, je trouve ça assez, assez gravissime. Mmh. Voilà.
Je vais recontextualiser un peu pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Donc, on est dans l'apéro des darons. Je suis Manon Portanier. Je suis en compagnie de Nicolas, que vous connaissez sous le pseudo de To Be or Not To Be, qui a écrit un livre assez pratique quand même, qui s'appelle Urgence or Not Urgence, manuel de survie en milieu pédiatrique. Et nous sommes dans notre chronique question pour... non, c'est pas la question pour la daronne, c'est le dico des darons. Et on voulait savoir qu'est-ce que le syndrome de Kiss. Alors, j'ai fait des petites recherches parce que je travaille à un moment quand
parce
même.
Parce qu'il faut faire ses devoirs aussi, hein, c'est important.
Ça. Je suis pas payée à rien foutre. Et donc, en allemand, savez-vous que le syndrome de Kiss se dit, alors faites gaffe parce que je n'ai jamais dit un seul mot d'allemand.
Heureusement, moi je pensais qu'on allait me demander, donc là je suis toute
ok, attends, toute je l'ai surligné. Hein. Kopfgelenk in Dysert Symmetristörungen. C'est nul.
C'est très beau. À mon avis, t'as pas fait langue, t'as pas fait LV1 allemand, je suis pas sûre en fait.
Non, j'ai fait anglais espagnol, ok, ça se sent. Et donc, en français, dans le texte, ça veut dire « trouble de symétrie induit de la jonction crânio-cervicale ». Donc aujourd'hui, nous étions en train de parler de ce syndrome qui, spoiler, n'existe pas, le fameux syndrome de Kiss, et qui a été découvert par un scientifique allemand qui s'appelle Erhener Biedermann. Voilà. Concrètement, on en était là. Ça n'existe pas, ça fait flipper tout le monde, et surtout ça peut être dangereux, comme tu le disais, parce que et ça peut cacher des
pathologies. Alors juste par contre, pour préciser un truc très 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 important par rapport à ça, tu viens de dire que ça n'existe pas, et moi quand j'ai dit ça, il y a plein de mamans, notamment ceux qui ont eu recours, même qui ne sont pas restés, etc., qui ont eu une haine démesurée par rapport à moi, qui ont rêvé de vraiment m'attacher à une chaise, de m'enduire d'une substance collante et de me mettre juste dans une forêt pour qu'un ours... Bon, bref,
d'accord.
Je vous laisse imaginer.
Après, chacun ses fantasmes,
voilà,
tu
chacun
sais...
C'est, alors, moi, c'est pas les miens, donc du coup, ça me... voilà. Mais, en fait, ce que je tiens à dire, c'est que, pour moi, toutes les personnes qui ont eu recours à ça, ce n'est pas eux, en fait, que je vais reprocher ou accabler.
Ah non, c'est des praticiens qui inventent ce truc.
C'est eux, c'est des victimes.
Mm-mm, c'est ça.
Quoi qu'il arrive, ce sont des victimes. Même si elles ne l'en ont pas conscience, même si elles ne croient pas, ce sont des victimes. Et je n'ai aucune malveillance, aucune mauvaise intention auprès
envers
de ces gens-là. Je n'ai aucune intention de les faire passer pour des imbéciles, etc. J'ai l'intime conviction qu'on n'est pas un imbécile quand on va voir quelqu'un, et encore une fois, syndrome de Kiss ou pas, ou autre chose, et qu'on y croit pour la santé de son enfant, qu'on croit qu'on va lui faire du bien. En fait, je pense juste que souffrir en tant que parent, et voir son enfant souffrir... En fait, c'est pas
on
eux qu'on peut
tous les
accabler.
Moyens pour comprendre.
C'est la personne qui profite de la souffrance pour se faire une clientèle et en avoir finalement un avantage pécunier que je
c'est,
trouve
c'est,
ça
c'est des victimes
inadmissible.
D'arnaque, en fait.
Oui.
Concrètement, c'est la même
voilà.
chose que.
Mais là encore, c'est pire parce que ouais. vous êtes au niveau. En fait, on est au niveau suprême. On utilise la souffrance d'un enfant. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire au monde. Je ne sais pas.
Ouais. Non, je suis bien d'accord. Bien d'accord. Oui, non, c'était ma dernière question, c'était vers quel praticien les parents se tournent, et est-ce qu'il y a des noms de corps de métier, est-ce que c'est...
Il y a certains médecins, il y a beaucoup d'ostéopathes, qui, je le rappelle, je vais encore me faire plein d'amis, Coucou, pour dire que les ostéopathes, selon le code de la santé publique, ne sont pas des professionnels de santé, qu'ils n'ont rien de médical, qu'ils n'ont aucune connaissance médicale et qu'ils ne devraient jamais pouvoir toucher un enfant, qu'il soit en bonne santé ou en mauvaise santé. Voilà, maintenant vous pouvez tous me haïr.
Bonjour.
Mais voilà, il faut quand même rappeler des choses élémentaires, parce que j'en vois beaucoup trop passer, j'en rattrape beaucoup trop. Il y a une spécialité qui, finalement, est reconnus scientifiquement et médicalement à ce propos-là, qui ne sont pas les ostéopathes, s'appellent les kinésithérapeutes, les masseurs kinésithérapeutes, et je tiens à tous les saluer s'ils nous écoutent, s'ils nous regardent, parce que c'est eux les professionnels de santé vers qui on doit se tourner justement en cas de problème, notamment par exemple, je pense aux torticolis,
oui,
par exemple,
de plagiocéphalie,
etc. Ouais. Ce sont des professionnels de santé. Les ostéopathes ne le sont pas. Voilà. Après, encore une fois, et je le redis, vous êtes adulte. Si pour vous, adulte, vous voulez consulter un ostéopathe, un homéopathe, un kinésiologue, je n'en ai rien à faire. Faites-le, faites ce que vous voulez.
Que vous êtes
Moi, je suis là juste pour informer.
C'est
je
ça.
Suis là juste pour dire, dans la profession médicale, on doit une information claire, loyale et adaptée aux patients. Voilà, j'ai fait mon domaine. C'est pareil, en fait, on en vient au même niveau, si vous voulez, quand vous recevez, alors moi, j'en reçois pas, hein, heureusement, mais quand vous recevez une personne fumeuse qui va fumer 2 paquets par jour, pour moi, il va du principe que vous devez informer ces patients qu'il y a un gros danger. Et quels sont les dangers s'ils veulent le savoir ? Mmh. On donne cette information, mais après, les matraquer à longueur de temps, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, c'est bon.
Mmh.
Ils sont adultes. Et après, si un jour ils veulent peut-être entreprendre des choses, ils peuvent se sentir libres de venir vous en parler. Ben là, en fait, c'est la même chose. J'explique. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est... Voilà.
Mais écoutez, je pense qu'on va enchaîner sur une nouvelle rubrique, enfin sur une autre rubrique qui s'appelle... Attends, on peut pas faire un jingle, là? Ça marche? Si je fais ASMR. Demande à ta daronne. Demande à ta daronne et toutes les questions que vous vous posez sur les fake med. Oh, c'est beau. Donc pour ça, nous avons passé à un appel sur Instagram, à une boîte à questions... à laquelle vous avez répondu. On a plutôt une petite liste de questions. J'en ai sélectionné 2 parce que j'aime bien avoir un pouvoir de décision. Et je vais vous les lire à voix haute, après avoir toussé. Et vraiment, c'est juste... Je ne suis pas malade.
Je suis au droit d'appeler le 15 quand même. Hein, parce que...
Mais t'es médecin, tu peux pas appeler le 15.
Ah non, moi je...
Ah,
moi,
tu fais pas les adultes.
Moi, c'est après 16 ans, c'est terminé. Et là, je pense que tu as légèrement plus de 16 ans. Même si ça se voit pas. Même si ça se voit pas.
Merci de te rattraper quand même.
C'est parce que c'est la lumière.
Oh, c'est vraiment pas sympa. On t'invite plus. Alors, je retousse et je vous le dis. Question numéro 1.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
T'es prêt? J'ai accouché il y a 1 mois et ma belle-sœur m'a conseillé de voir un ostéopathe pour aider mon bébé qui a de grosses coliques et qui se tord de douleur. Est-ce que c'est aussi une fake maid? On en a un peu parlé tout à l'heure.
J'ai déjà répondu.
Voilà, l'ostéopathe, bon, franchement, pas chaud? Pas chaud.
Bah, pas chaud, oui, pas chaud. Enfin, j'ai déjà répondu en fait, finalement, pas chaud.
C'est après, pas de ma faute si tu réponds aux questions avant même que je te réponde.
Non, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est le fait que là, c'est demandé pour les coliques du nourrisson.
Ouais.
Et les coliques du nourrisson, en fait, c'est quelque chose, c'est une entité compliquée parce qu'en fait, c'est dû à l'immaturité du système nerveux et l'immaturité du système digestif de l'enfant qui va se résoudre au fur et à mesure.
Au fur et à mesure, ouais.
Voilà. Le remède miracle n'existe pas. Et qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux, c'est un ensemble de mesures.
Ça,
pourquoi pas, le biogalia, on peut en donner un petit peu, ça ne fera pas de mal, mais ça ne va pas résoudre les choses comme par magie. En fait. Et en gros... Là, typiquement, on est typiquement dans le cas que je décrivais. C'est-à-dire que vous avez un problème qui est mal définie, qui est qui n'a pas de traitement miracle, et quelqu'un arrive et vous dit « moi, je vais pouvoir faire quelque chose et moi, je vais le soigner ». En fait, dès que vous entendez ce genre de choses, c'est qu'il y a un souci. On ne peut pas provoquer de miracle sur ce genre de pathologie. Et c'est vraiment, c'est là où se nichent toutes les fake meds. C'est-à-dire, c'est là où il y a soit un traitement qui n'est pas encore codifié, soit une non-possibilité de traitement parce que c'est quelque chose qui va guérir naturellement. Et ça,
ça va passer avec le temps, en fait.
Bah, c'est ça. Voilà. Et alors après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas dit que ce n'était pas pénible, insupportable, infernal, et qu'il ne faut pas
et
accompagner
les parents.
Vraiment, il y a des petits moyens qu'on peut... C'est des petits moyens, mais on peut... Le massage de ventre, les probiotiques, on peut faire ce genre de choses en éliminant pas les autres hypothèses avec le reflux portage. Qui peut aussi influencer finalement les coliques. Mais là, l'évidence, elle est simple, en fait, pour moi, c'est que l'ostéopathe... il faut voir juste une chose, quoi. L'ostéopathie, ça repose sur du flanc. Voilà, je suis désolé. Quand on regarde les théories ostéopathie viscérale crânienne, ça ne repose sur rien. Le collectif NoFakeMed a fait une magnifique tribune à ce propos qui a été parue dans le Figaro, qui a été relayée dans différents autres endroits. Mm-hmm. Ils n'ont pas que le Figaro, ils ont leur site à eux, hein, mm-hmm. NoFakeMed, et qui ont expliqué avec preuve à l'appui pourquoi c'est du flanc. Et en fait, les gens me disent mais pourquoi, oh là là, t'es hyper hanté en ostéopathe, tu veux, t'es jaloux, t'es machin. Alors, deux choses. D'abord, être jaloux des ostéopathes. Je suis urgentiste pédiatrique. Le jour où vous arrivez à des urgences, pour une urgence de votre enfant, et qu'on vous dit, vite, on va appeler l'ostéopathe, alors déjà, vous m'envoyez un message, et de deux, vous courez. D'accord ? Parce que si un ostéopathe souhaite une méningite, je veux voir ça de mes yeux.
C'est pas
deuxième, donc, j'ai aucune raison d'être jaloux, c'est pas le même corps de métier. On va pas demander à vous n'allez pas demander à un charcutier s'il est jaloux du bijoutier, ça ne sert à rien.
Bah, on ne sait pas la taille des bijoux.
Peut-être, oui, parce qu'il peut avoir plus d'heures. Ah. Peut-être. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que tu les détestes, est-ce que non, en fait, moi ça m'indiffère, c'est juste que ça interfère.
Peuvent être aussi plus il y a
certainement des ostéopathes qui essayent, encore une fois, on retombe dans ce truc-là. Il y a des ostéopathes, je pense, qui essayent vraiment de faire quelque chose de bien, d'accompagner, mais on en revient toujours à la base. Ils n'ont pas été formés, ils ne sont pas professionnels de santé, ils n'ont pas fait les connaissances nécessaires et ils croient en des choses qui reposent, encore une fois, sur de la magie. Dire aux parents que vous déplacez des organes dans le ventre et que ça va résoudre les choses. Mais moi, j'aimerais répondre, en fait, j'aimerais demander aux gens qui disent « Oh, il a un reflux, mais c'est parce que voilà, l'estomac, il n'était pas bien placé, ou le foie, il lui a replacé le foie. » Mais dans ce cas-là, pourquoi on a inventé la chirurgie? Ils se font chier pour rien, en fait, de faire 15 ans d'études, les chirurgiens, au fond. Non, c'est « Donnez-moi un couteau à beurre, faisons résoudre les choses. » Non, ça n'a aucun sens. Et on a la même chose pour l'ostéopathie crânienne, où on va déplacer les os du crâne, où vous allez... C'est de la magie.
Et dans ce cas, les kinés qui sont aussi ostéopathes.
Bah, les médecins qui sont aussi homéopathes.
Oui, c'est ça, en fait. C'est... Oui.
Bah, on revient à ce que je vous disais toujours à la base. Hein, c'est les hommes, en fait, sont des... C'est un animal de croyance, l'homme.
C'est voilà. Ça.
Donc, moi, je ne sais pas. Honnêtement... Je ne sais pas ce qui peut pousser. Je me suis toujours demandé, en vrai, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui, par exemple, a fait 10 ans, 11 ans d'études en faculté de médecine avec la difficulté extrême que ça impose en hospitalier. Qu'est-ce qui peut le pousser, finalement, à devenir, à la fin, homéopathe et à proposer des choses diluées au 100 millième. Je ne sais pas, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cette volonté et en fait, comme j'ai horreur personnellement de mentir au patient, de lui faire croire des choses et de ne pas lui dire la vérité, ce que je pense qui est normalement le devoir de tout praticien, mais je ne peux pas en fait lui dire « je vais vous donner ça ». Je vais vous donner du foie de canard dilué et vous allez voir, ça va être génial, ça va résoudre votre scoliose. Bah non, ça va résoudre votre bronchite. Bah non plus, non. En fait, c'est ça, moi je comprends pas.
Mmh. Mais bah, on va enchaîner sur la deuxième question qui, je pense, rejoint un peu ce sujet. Qui dit, du coup, je cite, « Je ne suis pas anti-vax et tout, mais j'ai un peu peur des injections obligatoires pour les nouveau-nés. Ne pas avoir le choix de les vacciner autant, ce qu'on leur injecte, etc. Mon médecin homéopathe n'est pas très clair sur le sujet non plus. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller ?»
Bah, forcément, le médecin homéopathe, forcément. Bon, Voilà, alors après, en fait, il y a deux temps à répondre à cette question. Il y a deux façons de voir la chose.
Il faut
expliquer. En fait, les vaccins, maintenant, c'est obligatoire.
11 injections, c'est ça ? Enfin, 11
vaccins. C'est pas forcément 11 injections, parce qu'il y a plein de façons combinées. Les vaccins sont combinés, hein, rappelons-le. Et surtout, rappelons que normalement, si on se référait à la loi et si elle était appliquée, le fait de ne pas vacciner son enfant sur les vaccins obligatoires, ça s'appelle de la maltraitance par négligence. Parce que si votre enfant, demain, fait une méningite ou une épiglottite à Hémophilus influenzae et qu'il va y rester, en fait, vous venez de tuer votre enfant, mais par négligence, finalement. Pas volontairement, oui. Mais voilà. Mais ça, c'est le côté légal. Voilà. Et forcer les gens, moi, je préfère leur expliquer que leur dire que les vaccins, ça sert à nous entraîner, ça sert à entraîner l'organisme à quand il va rencontrer le germe en question pour le désinguer rapidement et que son enfant survive ou aille mieux plus rapidement ou n'ait pas de séquelles ou n'ait pas de handicap suivant les maladies. Donc en fait, le vaccin, c'est un investissement pour protéger son enfant et pour être très terre à terre. J'ai eu tous mes vaccins, je pense que tu as eu tous tes vaccins. Mm-hmm. On était dans une génération où, en fait, on ne se posait absolument pas ce genre de questions parce que cette propagande n'était pas encore arrivée jusqu'à nous. Moi, je connais personne qui est mort des vaccins. Les personnes que je vois qui meurent ou ont des complications des vaccins, c'est tous dans l'entourage des antivax. Donc moi, j'ai un bon conseil, ne soyez pas l'entourage d'un antivax.
C'est peut-être
parce que
ça,
je pense qu'il y a un problème.
Je pense que
ces gens ont des problèmes parce que c'est assez terrifiant de voir ça. Les vaccins obligatoires pour l'enfant ont été mis pour une bonne raison, pour permettre à votre enfant de survivre dans les meilleures conditions possibles.
C'est quand même pas mal, en fait, comme c'est plan quand même... de survivre. Enfin,
ça dépend du type d'ado que vous avez, mais...
Oui. Après, c'est vrai que... On peut comprendre les parents qui, voilà, ils viennent d'accoucher d'un tout petit machin là, de 3 kg 2, c'est rose, ça crie dans tous les sens, machin truc, on lui dit, ah là là, il va lui falloir 11 vaccins avant ses 16, 18 mois, peu importe, bon, il faut les faire, machin, et on peut comprendre les parents qui disent, ah, il se fait beaucoup d'injections dans un tout petit...
Oui, non, même. Mais en fait, c'est toujours... C'est même le principe de ce qui s'était passé, en fait, pendant l'épidémie Covid, où j'avais débunké beaucoup de choses sur le vaccin, ou même, d'ailleurs, je précise quand même, quand il y avait eu des signaux d'alerte sur certains vaccins, j'en avais parlé, j'avais dit aussi, hein, parce qu'on ne dit pas que le bien, on sait aussi, des fois, les doutes ou le mal qu'il peut y avoir. Ça arrive toujours. Il n'y a rien de 100% de sûr dans la vie. Mais, en fait, moi, je pense que les doutes... des gens, le fait qu'ils se posent des questions, ben oui, mais en fait, on en revient à ce que je disais à la base. On est là pour répondre à ces interrogations le plus simplement, adapté et loyalement possible. Donc moi, que la maman ait un doute, elle a tout à fait, mais je vais vous expliquer ouais. Pour quelle maladie on va faire ça, pourquoi, quels avantages il y a à le faire, et pourquoi on le fait aussi jeune, parce que les défenses de votre enfant vont mettre en mémoire beaucoup plus rapidement avec leur jeune âge ce germe et qu'ils vont se défendre plus rapidement parce que sinon leur système est totalement immature pour l'affronter. Il y a plein de raisons à ça. Et en plus, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas 11 injections parce que vous avez... Prenons qu'un exemple très simple. Diphtérie, tétanos, polio, ils sont ensemble. DTP, polio, et même DTP, polio, Hémophilus influenzae, il y en a en fait beaucoup plus. Donc en gros, vous n'avez pas 11 injections.
C'est
en plus, c'est pas 11 injections. On veut essayer de faire croire aux gens qu'on va être tous les jours à bombarder leur enfant avec des fléchettes. Bon, c'est vrai. En théorie, c'est drôle si on le met sur une cible. Non, c'est juste...
Ouais, mais après,
c'est chiant pour l'investissement qu'on y a passé. Oui. Le problème, c'est vraiment de faire
croire
aux gens...
C'est de l'humour, Twitch, calme-toi.
Le problème, c'est vraiment de faire croire aux gens qu'on va les bombarder tout de suite de vaccins, alors que c'est pas le cas, en fait. On va le faire progressivement à 2, 4 mois, 11 mois, etc.
Il y a un calendrier vaccinal.
Ça sera beaucoup moins... beaucoup moins difficile entre guillemets que ça, hein. Et on s'est tous remis des vaccins qu'on nous a fait, en fait. C'est une piqûre, c'est même pas une piqûre, on dit une piqûre, c'est une intramusculaire, c'est une toute petite aiguille, en vrai. C'est vraiment les intramusculaires, n'importe qui peut le faire, tellement c'est très simple, il suffit de piquer dans le muscle, c'est très simple, très rapide, et c'est essentiel. Et c'est tellement essentiel, ces vaccins-là, que même, on parlait de 3,2 kg, nous, on le fait à des prématurés. On le fait à des enfants qui ont genre 30 semaines, etc. On le fait à eux parce qu'ils en ont besoin. En fait, parce qu'ils en ont besoin pour se défendre, qu'ils sont sensibles, qu'ils sont fragiles. C'est de la défense, en fait. Et le fait de, limite, le fait normalement d'inciter des parents soit à décaler, soit à ne pas faire des vaccins, c'est une incitation à la maltraitance. C'est une incitation au fait que les enfants vont être en danger et qu'on les met en danger de cette façon-là. Alors, de façon tacite ou de façon plus explicite. Hein.
Mais il faut prendre sa responsabilité aussi.
Parce que, voilà, une des choses évidentes, en anecdote, une des choses évidentes, c'est que, bizarrement, les antivax ne sont jamais aussi virulents, notamment pour les vaccins à vaccination obligatoire, ils sont jamais aussi virulents que sur les réseaux sociaux. Quand vous les avez en réalité devant vous, il y a une toute petite minorité qui reste sur ces positions et qui ne change pas quand on leur explique les risques qu'encourt leur enfant ou quand dans le box d'à côté, ils voient en face, dans le couloir, un enfant qui a une méningite. Là, ça rigole beaucoup moins.
Et ça t'est déjà arrivé, j'imagine, pendant des gardes, d'avoir vraiment affaire à des gens anti-vax ou pro-homéopathie ou plein d'autres choses qui se disent non, moi je veux pas de ces trucs pour mon enfant.
Mise
en situation.
Moi, attention, je vais dire, j'ai quasiment jamais l'occasion, sauf cas exceptionnel de blessure, il faut rattraper le vaccin tétanos, etc., de faire des vaccins à proprement parler aux urgences.
Je rappelle que nous sommes avec Toubib, qui est médecin urgentiste.
Voilà, je n'ai pas autant l'occasion que mes collègues en libéral, par exemple, hein, ou mes collègues généralistes. Par contre, il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes totalement pro-homéopathie, anti-médicaments, mais en fait, moi, j'aime bien dire aussi aux gens, mais moi non plus, en fait, je ne suis pas pro-médicament. En fait, je pense que le médicament, c'est quelque chose qui doit être donné quand on en a besoin. C'est tout. Et j'ai quand même consacré trois fils qui m'ont valu pas mal de commentaires, etc., sur le fait qu'on prescrit trop de médicaments aux enfants, notamment en hiver, qu'on prescrit des trucs qui ne servent à rien, et les fusiller. Si j'étais un vendu à Big Pharma, je fais vachement mal mon rôle, quand même.
Donc, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent, là.
C'est sûr que là, je pense que la Cadillac, c'est en modèle réduit que je vais l'avoir.
C'est ça. Donc, petite voiture de sport pour jouer, c'est tout ce que tu auras.
Moi, je pense qu'il faut l'utiliser quand on en a besoin, et moi j'aime bien leur dire aux parents, quand ils me disent je suis pas trop médicament, de dire moi non plus, parce que ça les surprend, et ça permet d'installer, mais plus qu'en confiance, d'installer un truc d'égal à égal finalement. Je suis pas là pour vous vendre de la cam, moi j'y gagne rien. En vrai, je suis une des spé qui est le plus hermétique au labo. Parce que attention, je ne dénie pas que les labos vont essayer de chercher à caser leurs médicaments, mais qu'est-ce qu'ils vont venir me vendre à moi aux urgences pédiatriques? Du lait, bon, à la limite, du lait, mais je m'en fous. Pour moi, il n'y a que 3 laits qui existent. Et les marques, je m'en fous. Le reste, qu'est-ce qu'ils vont me vendre? Rien. Donc, en fait, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ces gens-là. Je suis les recommandations de la HAS, je suis les recommandations de Brun Pratique, mais je ne vais pas aller me vendre au premier démarcheur laboratoire.
T'as pas d'intérêt à ça?
Bah non, je vois pas. Et j'ai jamais aimé ça, soyons honnêtes. J'ai jamais aimé ça depuis le temps que je suis interne. J'ai toujours cherché à ne pas y aller. Il y a une seule fois où j'étais piégé parce que le chef de service voulait qu'on assiste à ça en rhumatologie. J'en ai rien retenu, soyons clairs. Et de toute façon, je ne travaille pas en rhumato. Donc, en gros, c'est tout. J'ai pas d'intérêt là-dedans. Et moi, j'aime bien expliquer aux gens pourquoi on fait les choses.
Après, savoir, c'est le pouvoir.
Oui, le savoir, c'est le pouvoir. Et justement, l'ignorance, c'est aussi donner du pouvoir, en fait, à d'autres personnes. Il faut toujours se méfier. Ceux qui prétendent savoir, mais qui ne vous prouvent pas, qui demandent de les croire sur parole, ils vont venir vous donner des solutions miracles et vous vendre des choses. C'est clair et net. Voilà, moi, je suis pas là pour ça. Et en vrai, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus sur Internet pour tout, hein, pour tout dans la médecine.
Il y a des experts partout.
À la périnatalité, hein, dans tout, l'éducation, tout.
Bon, y a un truc qui m'interroge quand même parce que, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de recrudescence, dites-le moi dans le chat si vous avez entendu parler de ça, par rapport à la frénectomie, c'est-à-dire le frein de langue, qui a une recrudescence ces dernières années, où on coupe de plus en plus souvent le frein de langue des bébés.
Et pour ceux qui le savent, j'ai eu un enfant il y a un an et demi et quelques, et j'ai vu deux pédiatres à la sortie de la maternité. Un qui m'a dit qu'il fallait couper son frein de langue. J'ai dit, moi, pas chaude quand même, j'ai pas trop envie, je sais pas, on va voir. Et j'ai consulté un autre pédiatre qui me dit, bon, non, il va très bien son frein de langue, aucune raison de le faire. Voilà, c'est deux médecins, c'est deux pédiatres, à peu près de la même génération, je dirais qu'ils ont peut-être 10 ans d'écart, donc c'est pas non plus deux générations très...
10 ans d'écart, oui. J'aimerais bien avoir 10 ans de moins, hein, excuse-moi, mais...
Non, ah non, en vrai, je voudrais tellement pas avoir 10 ans de moins. Ah, ah les 25
ans. Ou ça parce que tu sais pas utiliser TikTok, c'est pas bien.
Je fais ce que je peux. Putain. Donc voilà, je me demande, voilà, pourquoi venant de deux pédiatres qui ont reçu la même formation, il y a deux trucs différents. Et c'est pas des pédiatres homéopathes, ou c'est juste des pédiatres. Il y en a un qui me dit coupe le frein de langue, l'autre qui me dit le fais pas. Qu'est-ce que je crois en fait quand je suis jeune parent, je viens d'avoir un bébé. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, voilà, avec les fake meds, où on peut avoir des avis différents venant de personnes qui sont censées être dans le milieu médical? Il y a bien des ostéos qui consultent en maternité.
Je sais pas. Tu me demandes la différence entre ces deux pédiatres-là. Moi, je pourrais demander. Je vois deux journalistes, un qui fait du publi-reportage et l'autre qui fait un reportage d'investigation. Pourquoi vous avez suivi les mêmes, vous avez les mêmes principes d'éthique, etc. Ou pourquoi il y en a ou pas l'autre? Et du coup, en fait, on en revient à ce que, à finalement, ce que la base. Là, on est typiquement au niveau des freins dans un cadre qui est mal posé. On en revient. Alors là, c'est des recommandations qui ont été mal posées et finalement, encore une fois, il y a un vide quelque part. Quand il y a un vide, il se passe de la merde. Voilà, c'est tout. Et en gros, là, le vide, c'est qu'il n'y avait pas de recommandations claires et qu'il y a des gens qui se sont encore une fois engouffrés dans un business en mettant tout sur le compte du frein, que ce soit en médical, en orthophonie ou ailleurs. Hein. Et le problème, maintenant, c'est d'arriver à remettre les pratiques droites avec les recommandations. En leur disant, arrêtez le grand délire, il faut vraiment tout considérer au niveau des freins de langue. Moi, la plupart des choses que je vois autour du frein de langue, normalement, c'est à la mater, en fait, ça se voit assez rapidement. C'est-à-dire un enfant où le frein est assez évidemment court et qui a des retentissements sur l'allaitement,
sur l'allaitement, où c'est gênant.
S'il est court, que l'enfant, par contre, tète super bien, ben c'est tout. Mais là, cette semaine, en maternité, on passait voir un enfant. L'enfant, le pédiatre qui était avec moi, l'examine. Il a évidemment, de façon évidente, un frein, on voit, hein, attaché au bout de la langue jusqu'en dessous, qui est évident. Et quelle a été la réaction? Elle a dit, madame, on va devoir le couper. Mais elle ne l'a pas coupé. Elle lui a dit, d'abord, j'en parle à ma collègue, qui est conseillère en lactation, infirmière conseillère en lactation, etc. dans la maternité, qui va venir vous voir et évaluer la lactation. La lumière est passée, elle a évalué la lactation. Le sein, en fait, était très mal pris. La mère, elle disait qu'en fait, avec le bout de sein, etc., c'était vraiment écrasé, que ça lui faisait mal. Bah, il y a une indication, du coup. Parce que là, on a les deux choses qui concordent. Donc, on a vraiment... vous avez l'avis. Là, on a vraiment besoin de l'angle. Comme c'est quelque chose de délicat, on a besoin de l'angle pluriprofessionnel. Et c'est ça qui est important au niveau de la phrénectomie, surtout que maintenant, on a des recommandations internationales. On a la Société française de pédiatrie qui s'est penchée dessus.
Qui s'est alarmée aussi.
On a l'Académie française de médecine qui a expliqué qu'il fallait être prudent. Et voilà, après, encore une fois, restera les gens qui font ça, des phrénectomies à trous de bras, parce que... ils ont trouvé un fonds de commerce. Et puis ceux qui vont prendre leur temps et réfléchir un petit peu. Et la phrénectomie, c'est délicat. Parce que autant, par exemple, sur le KISS, on peut être systématique et dire « ça n'existe pas ».
Ça n'existe pas, voilà. c'est
mais là, en fait, on est par une fake med par excès. C'est-à-dire quelque chose qui existe, un phénomène qui existe,
mais
qui est relativement rare, mais qu'on a fait un truc totalement dingue. On a inventé le frein de langue postérieur qui n'a aucune existence anatomique sur les autopsies qui avaient été pratiquées. Donc, si on le retrouve littéralement pas quand on fait une autopsie. Donc, à un moment, il faut arrêter de l'imaginer. Il y a des freins de bouche. Ça n'a rien, enfin des freins de bouche, pardon, de joue, de joue, ça c'est n'importe quoi, hein. Voilà, qui serait sur les côtés, ça n'a aucune existence. Il y a le frein de lèvres supérieures qui fait toujours débat, alors qu'en fait le frein de lèvres supérieures sur les dents, souvent sur les dents, hein, on revient souvent sur les dents, ça n'a aucune, ça a un impact au niveau orthodontie encore, hein. Il y a des choses très précises encore là, il y a des très bonnes pages, j'avais mis dans le sujet que j'avais fait sur les freins, des liens justement sur deux sites d'orthodontistes.
N'hésitez pas du coup à aller sur le Twitter ou le Facebook de Toubib.
Sur le Facebook, ouais, vous retrouverez normalement en passant, vous passez par l'onglet, vous avez album, photo, et en fait dans toutes les photos, il faut chercher, hein, il y a plein, hein, mais dans toutes les photos, il y a frein de langue pour débunker, et il y a justement des liens qui mènent vers les trucs d'orthodontie, où en fait les orthodontistes expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut couper ça, ce frein de lèvres supérieur, notamment pour les fameuses dents du bonheur, et puis quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et ils répondent aussi aux questions en dessous, et ils font un super travail, d'ailleurs, je les salue s'ils nous regardent, mais ils font un super travail, et c'est important. Primum non serré. On ne doit pas, la première chose à faire, c'est on ne doit pas causer du mal au patient. Et donc il faut réfléchir quand on fait quelque chose. Le frein de langue, c'est quelque chose qu'on peut se poser un petit peu. Donc, est-ce que ça va mettre en jeu l'allaitement ou pas? Est-ce que ça va avoir un retentissement ou pas? Pareil, on se pose la question sur « Ah, ça va avoir des retentissements, troubles du langage, des ozotements, tout ça. »
Mais c'est ça, ça fait paniquer,
temps,
en fait.
C'est du bullshit. Okay. Et ça, pareil, vous avez des gens très bien qui débunkent. Il y a Siden Kari sur Instagram et aussi Twitter, qui est une orthophoniste, qui fait un super travail EBM. Et voilà, il faut en fait se baser sur des preuves, sur des choses scientifiques, pour essayer d'y voir le... En fait, c'est des sujets nébuleux. En fait, tous les sujets nébuleux et qui ne font pas un consensus franc et qu'on a oublié ou bien qu'on n'a pas traité assez en fond, en fait, vont faire ce genre de choses.
Très intéressant. Vraiment très intéressant. Je vais continuer parce qu'on commence à être... Sinon, on va être en retard. On va être là jusqu'à 22h, les gars. Et je sais que vous nous aimez, mais c'est pas... Bon... On a de quoi manger, mais on ne va pas quand même tenir ici toute la nuit. Pour recontextualiser un petit peu,
plus vous êtes... Il y a plein de Haribo qui me regardent.
Ouais,
mais
vas-y, ils sont là pour toi. Mange-les.
Mais c'est rare, mais bon.
Donc, on est dans l'apéro des Daronnes. Je suis Manon Portanier, journaliste parentalité, où j'écris plein d'articles sur Mademoiselle pour parler de plein de choses. Dès que ça a un trait aux enfants, aux mères, c'est moi qui m'y colle. Et je suis en compagnie de Nicolas, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Toubib or Not Toubib. Je ne sais jamais dans quel sens
le
dire.
Ça va plus vite.
Ouais, voilà, Toubib, qui est médecin pédiatre urgentiste et qui a sorti un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque si vous êtes parent ou si vous envisagez de le devenir un jour. Ça peut être pas mal. En vrai, ça fait des réductions pour les impôts, une demi-part fiscale, il paraît, et puis ça peut aider à payer votre EHPAD plus tard. Donc franchement, investissez sur l'avenir. Après, si vous n'en avez pas et que vous voulez quand même acheter un bouquin, c'est très bien. Ça peut caler des meubles, ça peut... Nous, notre canapé, tiens, avec des livres.
Ouais, enfin là, vu l'épaisseur, va falloir pas mal. Enfin, c'est bien, justement.
Non, hein, ça peut être une petite
5-6, hein, parce ouais. que...
Bon, acheter un stock.
Voilà.
Mais nous voici, enfin, dans cette dernière rubrique de notre apéro des Daronnes, qui s'appelle « Le truc et astuces de la Daronne ». Et vu que, d'habitude, on est deux, je suis avec Marie-Stéphanie Servos, ma rédactrice-chef, mais ce soir, je suis seule à vous parler de mes trucs et astuces de Daronne. Et je vais vous dire... À mon sens, comment on peut ne pas paniquer quand on se retrouve face à son bébé qui a une maladie bénigne, hein, je ne parle pas d'une maladie grave, mais une maladie vraiment bénigne de type gastro, fièvre, petit machin. Qu'est-ce qu'on fait en fonction des symptômes? Que faire? Quand consulter? Écoutez, je pense que la première chose à faire, quand vous voyez que votre enfant, imaginons, l'enfant a de la température, oh là là, c'est dramatique, il a de la fièvre, on va tous mourir. Non, en vrai, ça va aller. Déjà, respirer un bon coup.
Donner un César à cette... c'est le réaliste, vraiment.
Non, mais il est insupportable. C'est un Oscar.
Non, c'est très bien, très bien. Très bien fait.
Donc, l'enfant a de la fièvre. Que fait-on en dehors de flipper? Déjà... On prend sa température pour être sûr qu'il a de la fièvre. On fait pas ça aux doigts mouillés, ça ne sert à rien. On prend sa température avec un truc rectal qui se met dans les fesses. Je sais, ça peut être dérangeant, mais c'est comme ça, ça marche. Ensuite, on le découvre un petit peu, histoire qu'il ne crève pas de chaud et que sa fièvre tombe un petit peu. Et là, c'est le moment où vous allez ouvrir le fameux livre de Toubib que vous avez juste ici. Voilà, vous le voyez. Est-ce qu'il y a une petite fiche fièvre là-dedans?
Bon, ouais, il doit avoir un truc.
Il y en a deux, en fait. Il y en a même deux. Il y a une fiche pour vraiment tout savoir. Et à la fin, il y a même une fiche flash pour savoir en une page sans avoir envie de s'embêter. Donc, dans les fiches flash, qui est à la fin, la première, elle est faite justement pour ça, pour aller au plus rapide quand l'enfant a de la fièvre.
Tiens, je vais chercher.
Là.
Oh, waouh!
Voilà.
Votre enfant fait plus de,
on fait
de la fièvre, plus de 38.
Si votre enfant fait
grave.
Plein de fièvre, fait à chaque fois des épisodes de fièvre, des rhinopharyngites à répétition, quand il rentre à la crèche, vous prenez ça, vous mettez en poster dans votre chambre, hein, ça fait du bien. Hein.
Bah, en vrai, écoute, à côté des décorations de lapins, de koalas, de mon cul, là, on s'en fout. Franchement, les décorations des chambres d'enfants, un jour, on en reparlera. Mais en gros, moi, ce que je vous conseille, en dehors de lire ce livre et de savoir exactement d'un point de vue médical ce que vous pouvez faire, comme le découvrir, etc., vous pouvez consulter évidemment votre pédiatre ou médecin et aussi poser des questions sur une application médicale. Il y en a qui existent, il y en a qui sont vraiment merdiques. Il y en a une que j'aime bien particulièrement qui s'appelle May, qui est pratique quand vous avez un tout petit, parce que voilà, c'est des sages-femmes, des infirmières puéricultrices et des pédiatres aussi, qui peuvent vous répondre sur un chat. Et quoi de mieux que de demander un dimanche soir à 21h il a fait caca mou, est-ce que je vais aux urgences, s'il vous plaît aidez-moi, vraiment. May, vous m'avez sauvé la vie tellement de fois, si vous saviez. Ensuite, si vraiment c'est le flip, il n'y a pas de médecin, vous flippez grave, vous pouvez aussi appeler SOS Médecin, pas forcément pour qu'il se déplace, mais pour avoir un avis médical. C'est toujours sympa de parler à quelqu'un qui s'y connaît, autre que Tata du 36 sur Facebook. Et surtout, vous pouvez consulter voilà, de véritables experts et non pas les groupes Facebook. Il faut faire attention aux informations qu'on peut lire sur ces groupes de parents qui peuvent être anxiogènes, qui sont hyper pratiques.
Anxiogènes c'est une des choses, pires choses qu'on a inventées dans l'univers.
Non, ils peuvent être hyper pratiques pour s'échanger des poussettes ou pour savoir quelle est la meilleure école du quartier, tu vois. Oui. Mais après, dès que ça parle de santé, s'il vous plaît, n'allez pas sur les groupes de parents sur Facebook ou de trucs comme ça. Non.
Il a un cancer du poumon, mais comment fait-il? Il n'a fumé aucune cigarette dans sa vie.
C'est fou, c'est fou. Voilà, évitez ce genre de groupes qui peuvent être vraiment... dans tout sauf constructif et qui peuvent vous emmener dans des tréfonds dans lesquels vous ne voulez pas du tout aller. Voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est consulter un médecin, un avis médical, quelqu'un qui a fait un peu plus qu'un an de médecine, donc pas moi, parce que j'étais en communication, ça servait à rien. Et tout ira bien, en vrai, tout ira bien, vous allez gérer parce que vous savez gérer, même si vous pensez que vous ne savez pas gérer parce que vous êtes face à un truc qui crie, qui pleure et qui vient de sortir de votre utérus, vous allez gérer parce que... il y a un moment où on apprend, en fait. Il n'est pas livré avec un mode d'emploi, mais vous non plus, vous n'êtes pas livré avec un mode d'emploi. En tant que parent, vous vous découvrez, vous apprenez, vous allez faire des conneries, vous allez faire des erreurs, mais en même temps, au bout d'un moment, il va payer votre EHPAD, ce gamin. Donc, vaut mieux l'entretenir un petit peu.
On sent que l'EHPAD, ça revient beaucoup. Hein. C'est une question
ça m'angoisse, cette histoire, ça m'angoisse.
À 34 ans, presque 35. Beaucoup,
Je sais. Parce qu'en plus, non, en fait, j'ai vraiment très peur de finir dans un EHPAD. Et du coup, j'en parle à ma fille en lui disant, en essayant de la soudoyer, tu vois, en lui disant, tu veux un bonbon?
Alors, vous êtes sur l'apéro des darons et maintenant on fait la partie un peu débrief psychologue de la journaliste pour savoir justement comment elle vit sa pré-retraite qui arrive.
Bah écoute,
dans quelques années.
Qu'on part sur 50 ans quand même, hein, si ça continue comme ça. Retraite à 64, j'y crois pas du tout. Est-ce que c'est vraiment le débat de ce soir? On va tous crever avant. Non mais vraiment, le réchauffement climatique, s'il vous plaît, renseignez-vous, c'est pas une opinion. Tout ça pour vous dire.
On ne peut plus rien dire.
On peut les faire. Non, c'est vrai. Écoute, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, d'avoir parlé, expliqué, informé et j'espère que vous avez appris des choses. Et dans le chat, je vois que Cassez-moi dit que c'est un sujet très intéressant, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle est très d'accord avec l'avis de monsieur le docteur.
Très bien, merci.
Oui, que justement, au cas par cas et après mes réflexions, ça me semble être une réponse appropriée et honnête, mais totalement d'accord avec toi. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve, la prochaine fois, c'est le 6 juin, soyez au rendez-vous, parce que sinon je vais vous chercher un par un, ça va vous faire très très bizarre quand je vais débarquer chez vous. Merci encore Nicolas d'être venu, allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, donc Toubib, ça se retrouve facilement, Toubib or not Toubib. Encore une fois, urgence or not urgence. Je vous le conseille grandement, édité chez First, et qui est bien pratique et qui vous sauve en cas de fièvre un dimanche soir à 22h.
Et qui, en plus, pour la petite histoire quand même,
ce
livre m'avait été finalement... la personne qui est venue me voir avec ce moment où j'ai fait les fiches sur Facebook il y a longtemps, qui m'a dit qu'il faut en faire un livre, c'était une maman qui était venue me voir en
c'est
disant
vrai
éditrice, qui s'appelle Charlotte Volper, et qui m'a dit, il faut absolument qu'on en fasse un truc.
Ouais.
Ben voilà, donc si c'est une maman qui trouve que c'est utile et qui me demande de le faire, il fallait que je le fasse. Donc bah, maintenant, vous avez le mode d'emploi hein, pour qui vous fournisse votre EHPAD un petit peu. Là, hein. Faut pas, hein, voilà. Et puis, alors, si on veut terminer sur une note humoristique, moi, c'est un truc que je trouve absolument drôlissime, c'est que la deuxième édition du livre qui est dispo, en fait,
la nouvelle version.
Qui est dispo sur tous les sites, machin. Alors, je suis désolé, je vais citer celui-là parce que tout le monde le connaît, tout ça, mais c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Mais sur Amazon, en fait, vous avez des catégories en dessous. En fait, on a des catégories genre santé, machin. Et je n'en reviens pas, mais ils ont mis ces andouilles, le livre dans la catégorie. Ils l'ont référencé dans une, il y en a plusieurs, mais une catégorie s'appelle sexologie.
Ah,
et donc,
d'accord.
Ça fait à peu près des mois que je suis numéro un des ventes en sexologie avec ce livre. Et si on me l'avait dit,
c'est beau quand même.
Je ne l'aurais pas cru. Mm-hmm. Mais après mûre réflexion et en ayant parlé avec certains internautes, etc., mais c'est peut-être parce que je dégage du temps aux parents. Et en plus, j'ai anxiété.
Ils ont plus de temps, moins d'anxiété,
libido,
moins de stress.
Et hop, re-enfant, relivre. C'était terrible.
Waouh, et grâce à toi, le monde est repeuplé. C'est beau quand même, franchement. Je regarde une dernière question. Vraiment chouette interview. J'ai bien aimé l'ambiance. Bah écoute, merci. Hein, c'est cool. J'ai mis un clip avec la meilleure citation de l'émission selon moi. Et bah très bien. Je remonterai les messages plus tard parce que là, on doit couper. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci
bonne soirée
encore,
à tous.
Nicolas. À très bientôt. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.